tout se décompose, mais lui reste inébranlable pour l'éternité. Alléluia. Et quelle joie et quel bonheur, quelle grâce pour nous de l'avoir comme sauveur et comme Seigneur dans notre vie. À lui soit la gloire. Nous allons sans plus tarder nous apprêter à recevoir sa parole. Nous voulons qu'une fois de plus, le Seigneur puisse nourrir notre âme avec ce qui vient de lui. Nous voulons une fois de plus qu'il pose sa main sur nous pour nous bénir avec et par sa parole. Cette parole est appelée à trouver des cœurs bien disposés à la recevoir. Cette parole est appelée à trouver des cœurs qui vont l'accueillir. Et puis ensuite, cette parole pourra produire des effets pour la gloire et pour l'honneur de notre Seigneur. Tu te révèles comme Emmanuel à travers toute l'Écriture sainte. Tu te révèles comme Emmanuel, Seigneur, à travers l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, tu es avec nous, Seigneur, et nous t'exprimons toute notre reconnaissance, nous te disons merci. Merci pour ta présence à nos côtés, Seigneur, pour ta présence en nous. Nous apprécions énormément cette présence, car nous savons, Seigneur, qu'elle est source de bénédiction, qu'elle est source de victoire en face, Seigneur, de la tentation, qu'elle est source de victoire en face de n'importe quelle attaque qui viendrait de la part du monde des ténèbres. Seigneur, merci. Merci pour ces moments qui nous ont permis, Seigneur, de nous réjouir en ta présence, ces moments qui nous ont permis de nous approcher du trône de la grâce, Seigneur, et d'interagir avec toi au travers d'une louange et d'une adoration vivante. Et nous sommes convaincus, pleinement convaincus, Seigneur, que l'expression de nos sentiments, les paroles de nos bouches, sont montées vers toi comme du parfum agréable à toi. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu as pour nous. Et nous voulons en retour t'aimer du même amour dont tu nous aimes. Cet amour qui ne peut être généré en nous que par ton Saint-Esprit. Car humainement parlant, Seigneur, naturellement parlant, nous sommes incapables, ô Dieu, de t'aimer véritablement. Cet amour pour toi ne peut nous venir que de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ma prière est que tu nous aides. Tu nous aides à rester attachés à toi. Que tu nous aides à nous vider de nous-mêmes pour être remplis de ta personne, pour être remplis de ta présence. Alors, Seigneur, nous développerons cette capacité à t'aimer véritablement. Seigneur, cette capacité, ô Dieu, à obéir à ta parole, à la mettre en pratique à chaque fois que tu nous parleras. Merci pour tout. Bénis ton serviteur. Seigneur, assiste-le, soutiens-le par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bien, c'est notre première célébration dominicale de cette année nouvelle. Et à cette occasion, je voudrais revenir sur le thème de dimanche dernier, à savoir être audacieux comme des lions. En effet, le Seigneur nous appelle, il nous adresse cette vocation à faire preuve de vaillance, à faire preuve d'héroïsme, à faire preuve d'audace dans notre marche, ici-bas, dans notre parcours, mes amis, du temps vers l'éternité. Dans cette marche-là, s'il y a une qualité que nous devons apprendre absolument à développer, c'est bien l'audace. Et comme nous l'avons vu la fois dernière, et comme nous allons le voir encore aujourd'hui, cette audace est générée par une foi vraie, une foi ancrée, enracinée dans la personne du Christ, mais aussi dans sa parole. Amen. Appelé à être audacieux comme un lion. Nous allons relire notre passage de la fin dernière, à savoir Hébreux chapitre 11, les 6 premiers versets. Chapitre que nous connaissons tous, qui quelque part reprend le témoignage de quelques personnes qui nous sont présentées comme étant des héros de la foi. Hébreux 11, à partir du verset premier, nous lisons « Or, nous dit la Bible, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, par la foi, Abel fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, donc par la foi, quoique mort, Abel parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de telle sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est et qu'il devient celui qui récompense ceux qui le cherchent. Amen. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez certainement remarqué, j'aime lire ce verset 6 dans sa littéralité. Donc, Dieu est et devient celui qui récompense ceux qui le recherchent. Gloire au Seigneur. Appelé à être audacieux comme des lions. Voilà, mes amis, ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et dans notre marche, par la foi, puisqu'en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à marcher non pas par la vue, nous sommes appelés à marcher non pas selon les circonstances qui nous entourent, mais nous sommes appelés à marcher par la foi. Nous sommes appelés, mes amis, à réagir selon la parole de Dieu. Et toute la Bible est là pour nous aider à mieux connaître le Seigneur, pour mieux interagir avec lui. Toute la Bible est là, mes amis, pour nous donner la révélation en ce qui concerne cette notion fondamentale et essentielle de la foi telle que la Bible l'enseigne. Mes amis, vous le savez tous, la Bible est la révélation écrite de Dieu aux hommes. Alléluia. Elle nous révèle la nature incomparable, incommensurable du Créateur, ainsi que ses attributs. Elle nous révèle la volonté du Créateur envers tout homme. Dieu veut que tout homme soit sauvé par la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout homme puisse, au terme de son passage ici-bas, passer dans l'éternité avec lui. C'est donc sa volonté ultime de voir l'homme, cet homme fait à sa ressemblance, cet homme fait à son image, arriver au terme de son voyage ici-bas et passer l'éternité, le reste de son existence avec lui dans son ciel de gloire. Car la mort ne met pas un terme à la vie. Par la mort, le corps retourne à la poussière. Et ce que nous sommes véritablement demeure ad vitam aeternam. Donc, la Bible est là pour nous donner toute la lumière dont nous avons besoin sur la personne de Dieu, sur sa manière d'agir, sur ce que nous sommes. Mais la Bible met aussi en évidence, de la Genèse jusque dans le livre de l'Apocalypse, met en évidence la vie de certains personnages qui ont marqué à tout jamais l'histoire de l'humanité. Ils ont marqué cette histoire, non pas grâce à leur piété extraordinaire, à leur piété personnelle. Ils ont marqué l'histoire, non pas par leur intelligence remarquable, par leur visibilité sociale, par leur pouvoir religieux, politique ou autre, mais bien par leur foi, mais une foi audacieuse, alléluia. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes ne sont plus de ce monde. Cependant, leur vie parle encore. Car le Dieu qu'ils ont servi, le Dieu qui a été avec eux, qui les a conduits à travers leur pèlerinage ici-bas, ce Dieu-là est encore vivant aujourd'hui, alléluia. Ces personnes, mes amis, dont certaines se retrouvent dans la fameuse liste des héros de la foi, eh bien ces personnes considérées à juste titre comme des héros de la foi ont leur nom inscrit en lettres d'or dans les annales de l'éternité. Personne n'arrivera et ne peut arriver à effacer leur nom. Aujourd'hui encore, nous l'avons lu, la vie d'Abel parle, la vie d'Abraham parle, la vie de Moïse parle, la vie de David parle, parce que le Dieu qu'ils ont servi, avec une foi ferme, une foi audacieuse, est encore le même aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils ont marché par la foi, et leur vie a été caractérisée par une foi audacieuse. Cette foi qui les a amenés à ne reculer devant rien. Comme des lions, ils ont poursuivi leur marche avec vaillance, avec héroïsme, avec bravoure, avec un courage exceptionnel. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Ils ont affronté toutes sortes d'obstacles. Et ils ont fini par écraser, par emporter la victoire face à tous ces obstacles. Parce qu'ils étaient animés par une foi ferme, par une foi inébranlable. Et cette foi a fini par générer, par engendrer l'audace. L'audace, ce courage exceptionnel qui amène une personne à ne reculer devant aucun obstacle. Et dans cette nouvelle année, nous serons amenés, mes amis, à faire preuve de beaucoup d'audace. Car chaque jour qui passe nous rapproche de l'éternité, du retour du Seigneur. Et dans ce temps de la fin, dans ce jour difficile, eh bien nous connaîtrons toutes sortes d'attaques. L'ennemi essaiera par tous les moyens de nous distraire, de nous empêcher d'aller de l'avant. L'ennemi essaiera de nous inspirer d'une manière ou d'une autre, de nous influencer pour que nous fassions des choix qui plaisent à tout le monde. L'ennemi voudra nous transformer en une sorte de mouton de panurge, des gens qui suivent le mouvement de la masse. Puisque tout le monde se dirige vers le nord, alors moi aussi je vais vers le nord. Non! Nous voulons aller à contre-courant. Oh, alléluia! Nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Et l'Esprit, le Saint-Esprit, n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le monde. Le monde a sa philosophie, le monde a sa psychologie, le monde a sa destination, le monde a ses valeurs, ses standards. Et l'Église en a les siennes. Et ce sont les standards qui nous viennent d'en haut. Et gloire au Seigneur. Oui, la foi engendre l'audace. Cette audace qui nous permet d'avancer dans la vie envers et contre tout. Cette audace, ce courage exceptionnel dont nous avons besoin. À travers la vie des héros de la foi, nous voyons, mes amis, l'audace en action. Gloire à Dieu, alléluia. Et le Seigneur voudrait que nous puissions nous inspirer de l'audace dont on fait montre tous ces héros de la foi. Le Seigneur désire ardemment un peuple rempli d'audace et non pas de canards et non pas des poltrons, des gens craintifs, des gens qui au moindre éternuement de l'enfer, ils prendraient la poudre d'escampette. Mais le Seigneur voudrait avoir un peuple qui rugit face à l'ennemi, face à l'adversaire. Car le lion reste un animal emblématique. Son image est associée, mes amis, à la bravoure, au courage, à l'audace. Voyez-vous, et le Seigneur voudrait que nous soyons audacieux dans notre foi, dans notre marche, dans la manière d'affronter les événements, dans la manière de prendre des décisions. Que ce soit par rapport à nous-mêmes, que ce soit par rapport à notre foyer, notre famille, que ce soit par rapport à la direction que nous devons prendre, eh bien que nous le fassions avec audace. Nous sommes donc appelés à une vie d'audace, mais alors une audace tous azimuts, qui va dans toutes les directions. Que ce soit dans notre relation avec le Seigneur, c'est-à-dire sur le plan vertical, croyez-moi, nous avons besoin d'audace, alléluia. D'audace dans notre relation avec Dieu. Car il faudra à un certain moment que nous puissions, eh bien, nous dépasser, nous surpasser, pour pouvoir servir le Seigneur véritablement. Alors que le corps est fatigué, alors que le corps a besoin de repos, et en même temps, en nous, il y a cette demande de nous tourner vers le Seigneur, eh bien, pour arriver à le faire, il faudra beaucoup, beaucoup de persévérance, beaucoup d'audace, beaucoup de courage. Que ce soit dans nos rapports avec le monde, mes amis, c'est-à-dire sur le plan horizontal, nous aurons besoin d'être audacieux dans la foi, audacieux comme des lions. Oui, l'audace en action. Nous la voyons à travers tous les personnages qui ont marqué l'histoire biblique. Nous allons voir maintenant comment cette audace peut se traduire concrètement dans notre vie. Comment l'audace se montre-t-elle dans la pratique? Voyez-vous, le lion démontre son audace lorsque, affamé, il voit un buffle qui est plus gros que lui à cause de son audace, eh bien, il se met à le poursuivre jusqu'à ce qu'il le fasse tomber et qu'il se satisfasse de sa chair. Comment se montre-t-elle dans notre vie d'enfant de Dieu? Eh bien, le premier point, c'est que nous sommes appelés à faire preuve d'audace dans notre consécration à Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés, mes amis, à appartenir au Seigneur, corps, âme et esprit. Nous sommes appelés à être consacrés. Mais dans cette consécration à Dieu, nous avons besoin d'audace. Avoir une consécration audacieuse, une consécration intrépide qui ne recule devant aucun obstacle. Voyez-vous, où que nous soyons, que dans un désert quel qu'il soit, le Seigneur veut que nous continuions à le servir. Et croyez-moi, lorsque vous passez par un désert, lorsque vous connaissez la privation, lorsque vous n'avez rien pour servir le Seigneur, il faut vraiment vous surpasser, oui ou non. Pour servir le Seigneur, il faut vraiment de l'audace. Oui, nous en avons besoin dans notre consécration. Alors qu'il a plu, alors que nous avons eu une nuit difficile le samedi, quand le dimanche arrive, on se dit, Seigneur, j'ai rendez-vous avec toi. La pluie ne va pas m'empêcher de monter à ta maison. On se fait violence. C'est-à-dire, on prend la décision avec audace de monter à la borne pour rencontrer le Seigneur. Mes amis, nous sommes appelés à suivre le Seigneur. Mais pour suivre Jésus, pour le servir véritablement, il faut renoncer à tout. C'est lui qui le dit, voyez-vous. Le Seigneur veut tout. Comme nous en avons parlé il y a quelque temps d'ici, c'était, je crois, au cours d'un séminaire, dont le thème était « Jésus, l'hôte suprême » ou alors « un simple invité ». Il veut être dans notre vie l'hôte suprême, celui qui occupe toute la place. Il veut être au centre. Il veut que tout orbite autour de lui, voyez-vous. Il veut que nous lui laissions le trône, ou du moins, nous laissions le perchoir de notre vie, afin qu'il les transforme en un trône sur lequel il va s'asseoir. Notre place, c'est être à ses pieds. Mais quitter le perchoir de notre vie, quitter l'escabeau de notre vie sur lequel nous sommes assis, mes amis, pour laisser toute la place au Seigneur et nous contenter de nous asseoir à ses pieds, demande plus que de la bonne volonté. Demande une audace extraordinaire. Alléluia. C'est-à-dire, prendre sa croix, renoncer à soi-même, et puis aller s'asseoir à ses pieds. Oui, pour le servir, lui le Christ, notre maître, lui le Seigneur, eh bien, il faut absolument renoncer à tout. Renoncer à tout ce que l'on a de plus cher. Il faut prendre sa croix et le suivre. Et ce que nous avons de plus cher dans notre vie, c'est le moi. Regardez comment nous prenons soin du moi. de cet ego. Nous les cajolons, nous l'encensons par des éloges, nous faisons tout pour qu'il soit satisfait. Voyez-vous, qu'il puisse avoir le dernier sac à la mode, Louis Vuitton ou je ne sais pas quoi, Coco Chanel, voilà. Nous faisons tout pour qu'il soit à l'aise. Voyez-vous, nous essayons de tout faire pour que les gens soient en admiration par rapport à notre moi. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de renoncer à tout. C'est de se renier soi-même. Suivre Jésus, c'est se plier entièrement à sa volonté. Et croyez-moi, ceci demande beaucoup d'audace et de courage. Oui ou non? Eh oui, beaucoup de courage. Car ceci, c'est-à-dire nous plier entièrement à la volonté du Seigneur, veut dire que peut nous amener à faire des choix qui iraient, mes amis, à l'encontre de ce que tout le monde a choisi. Voyez-vous. Il faut une audace pour pouvoir dire non à certaines sollicitations, oui ou non. Alors que toute la tribu voudrait que nous marchions de cette manière, alors que toute la famille voudrait que nous fassions ceci, mais nous disons non, Dieu me demande de faire autre chose. Pour arriver à réagir de cette manière, à faire un choix, nonobstant la réaction des autres, il faut beaucoup d'audace. L'audace. On ne peut pas plaire à tout le monde. Eh oui. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous cherchons à plaire à tout le monde. Nous voulons répondre à toutes les invitations. Nous voulons rencontrer tout le monde. Nous voulons faire comme tout le monde le fait. Voyez-vous? Les gens ne se posent plus la question de savoir si ce qu'on leur demande de faire est vraiment conforme à la volonté de Dieu. Attention, mes amis, les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans ce jour que la Bible qualifie des derniers jours. Voyez-vous? Et nous voyons, mes amis, tous ces signes avant-coureurs, précurseurs du retour du Seigneur, se manifester devant nous, à nos yeux. Et dans un temps pareil, nous devons être plus que vigilants. Nous devons être extrêmement prudents. Donc, pour pouvoir aller à contre-courant, il faut de l'audace, mes amis. Il faut plus qu'un courage humain. Il faut l'audace qui nous vient de la foi. Gloire au Seigneur. Ne pas vouloir plaire à tout le monde. L'audace nous pousse à dire non à certaines sollicitations. Et ne pas nous compromettre. Aujourd'hui, tout le monde cherche la célébrité. Tout le monde cherche la notoriété. Tout le monde veut être sous l'éclairage. Et on ne se pose plus la question de savoir si là où on va, Dieu est vraiment là. Si Dieu n'est pas quelque chose, comme quelqu'un l'avait dit, le ciel est ciel. Le ciel m'intéresse parce que Jésus y est. Mais le jour où le Seigneur quitte le ciel, il va ailleurs, le ciel ne m'intéressera plus. C'est donc Jésus qui fait toute la différence. Ça sert à quoi de se retrouver tous ensemble sans que Jésus y soit? Et pour que Jésus soit là, il y a des conditions préalables. Et c'est donc l'audace qui va nous dire, non, je n'y vais pas. Voyez? L'audace va nous amener à dire non aux choix qui nous sont imposés par les autres, par la famille, par le tribu. Voyez? Des choix qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour notre vie. Par exemple, dans le domaine du mariage. On veut absolument que vous puissiez épouser quelqu'un de votre tribu. Voilà. Alors que la personne qu'on vous propose n'est même pas convertie. Et vous dites, ah oui, mais chez nous, c'est toujours comme ça. Voyez-vous, mon père, mes parents sont originaires de tel village, et il y a une coutume plus que sacro-sainte qui veut que nous, pour se marier, il faut aller dans l'autre village, à 5 kilomètres, jamais au-delà. Alors on ne se demande pas si dans l'autre village il y a des convertis. Tout le monde veut que vous fassiez cela, que vous vous pliez, mes amis, au diktat de la tribu. Vous, vous dites non. Je veux faire ce que Jésus me demande de faire. Et quand vous décidez comme ça, tout le monde vous tourne le dos. Voyez-vous? Eh oui, c'est le prix à payer. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas être véritablement avec Jésus. Le suivre comme il faut et plaire à tout le monde. Voyez? Celui qui plaît à tout le monde, croyez-moi, ne plaira jamais à Dieu. Voyez-vous? Pour plaire à Dieu, il faut être prêt à se faire violence. Prêt à être critiqué. Prêt à être rejeté. Prêt à être méprisé parce que vous avez choisi pour Jésus. L'audace. Il y a donc un coût à payer, mes amis, pour suivre Jésus, pour être son disciple. Et pour pouvoir payer ce prix-là, pour pouvoir payer ce coût-là, eh bien, il faut beaucoup d'audace, il faut beaucoup, beaucoup de courage pour être le disciple du Christ. Et gloire à Dieu. Dans Luc 14, versets 26 à 27, le Seigneur nous montre les conditions qu'il faut remplir. Si nous voulons être ses disciples, si nous voulons le suivre, que dit-il dans ce passage? Si quelqu'un vient à moi, et c'est ce que vous et moi nous avons fait, oui ou non? Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour nous sommes venus à Christ. Un jour nous l'avons reçu dans notre vie. Et nous nous sommes engagés dans cette marche avec lui. Et pour grandir dans cette marche, nous venons dans sa maison pour être nourris. Si quelqu'un vient à moi, écoutez maintenant les conditions qui suivent. Et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Mes amis, il y a un prix à payer. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Car si nous ne faisons pas très attention, nous risquons de mal interpréter les propos du Seigneur. Si quelqu'un ne hait son père et sa mère, ne hait sa femme, ne hait ses fils, ses frères, ses sœurs ou ses fils et ses filles, ne peut être mon disciple, dit le Seigneur. Personne, à commencer par moi, ne veut vraiment haïr sa famille. Oui ou non? Ne veut vraiment haïr sa femme. Ben, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que l'homme aime quoi? Qui? Sa femme. Or, ici, le Seigneur parle de haine. Vous voyez? Mais personne ne veut vraiment haïr sa famille. Cela serait contraire au cinquième commandement, tel que nous le trouvons dans Exode 20, qui nous dit ceci, « Honore ton père et ta mère. » Ah. Et nous savons combien le Seigneur a demandé aux gens de respecter la loi. Lui-même a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. » Alors, s'il est venu pour accomplir la loi, comment peut-il nous demander de haïr nos parents, puisque la même loi nous demande de les honorer? Sa parole nous demande d'aimer nos conjoints. Comment peut-il nous demander de haïr notre femme? Voyez. Donc, nous ne devons pas interpréter cette notion de haïr dans son sens littéral. Voyez-vous? Donc, non seulement, si c'était vraiment ça, ce que le Seigneur a voulu dire, eh bien, il irait à l'encontre de ce cinquième commandement, de la loi de Moïse qui nous demande d'honorer nos pères, d'honorer notre père et notre mère, et en même temps, il irait lui-même à l'encontre de sa parole qui nous demande d'aimer les ennemis. Oui ou non? Donc, ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire, car ça serait aller à l'encontre de sa parole. Or, lui s'appelle fidèle et véritable. Il se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire au juste? Eh bien, par cette parole que nous trouvons au verset 26, où il dit si... comment? où il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, etc., il n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Eh bien, par cette parole-là, le Seigneur n'appelle pas ses disciples à la haine, car dans le royaume de Dieu, la haine n'existe pas. Voyez-vous? Haïr sa famille, de manière, dans le sens littéral du mot, ça aurait été contraire à la loi, ça aurait été contraire à sa propre personne, car à plus d'une fois, comme je l'ai souligné, le Seigneur a encouragé les gens à respecter la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Ça se trouve dans la loi. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ou qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Eh bien, en fait, l'accent est mis sur l'aspect prioritaire, sur la prééminence de l'amour pour Jésus, sur toute autre forme d'amour. Que ce soit l'amour pour nos parents, que ce soit l'amour pour notre épouse ou notre époux, eh bien l'amour pour Jésus devrait être au-dessus de tout. Oh, hallelujah. Au point où si nous devions comparer cet amour-là avec celui du Seigneur, eh bien l'amour pour la famille, eh bien se présenterait comme étant de la haine, c'est-à-dire l'opposé. C'est ce qu'il veut dire. Il y a une priorité. La priorité dans l'amour pour Jésus. La prééminence sur toute forme d'amour. Le prix à payer, voyez-vous. Il demande à payer que le plus grand prix que nous devons payer, que ce soit pour lui. Par exemple, l'amour pour sa famille, ses parents, ses enfants, etc., ne doit pas être au-dessus de l'amour pour Jésus. Oh, hallelujah. Oui, nous devons aimer nos enfants. Oui, nous devons aimer nos familles. Nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer notre communauté, notre congrégation. Mais cet amour-là, ou ce type d'amour, ne devrait jamais, mes amis, surpasser l'amour que nous sommes censés avoir envers le Seigneur. L'amour pour sa communauté. Ceci veut dire que la fidélité à Jésus passe avant la fidélité à sa propre famille. Voyez, moi j'ai vu des gens être persécutés parce qu'ils avaient pris la décision de rencontrer le Seigneur, de quitter leur ancienne religion, la religion des parents, la religion des grands-parents, pour se jeter dans le bras du Seigneur. Ils ont été persécutés, mais ils ont tenu bon. Oh, hallelujah. Et certains ont même fini par amener leurs parents au Seigneur. Mais d'autres sous la pression familiale. Le papa agitait la menace de l'héritage. Si tu ne restes pas dans cette religion, dans notre religion, là où tes grands-parents ont été, là où j'ai été éduqué, j'ai fait l'école dans cette religion-là, si tu abandonnes cette religion, sache que tu m'abandonnes aussi, et tu abandonnes du coup l'héritage. Alors il y en a qui se sont dit, ah l'héritage, papa avec toutes ces vilains qu'il a, s'il doit me déshériter, qu'est-ce que je deviendrai? Mes amis, tout ce que le monde peut nous offrir est éphémère. Tout cela va passer, voyez-vous. Donc, lorsque je suis confronté à un problème comme celui-là, je devrais privilégier ma fidélité envers le Seigneur. Oh, hallelujah. Quitte à être rejeté. Lui-même l'a dit, hein. Et tout au long de l'histoire de l'Église, nous voyons des hommes et des femmes être rejetés. Regardez ses premiers disciples. C'était tous des Juifs, hein. Ils ont été rejetés. Ils ont été persécutés. Mais ils ont tenu bon. Et ils ont fini par gagner d'autres Juifs à Christ. Voyez-vous. Ne regardons pas, mes amis, à tout ce que le monde nous présente pour essayer de nous avoir. Tout cela est passager. On peut avoir ou ne pas avoir. Mais un jour, on quittera quand même et on s'en ira. Voyez-vous. C'est pourquoi c'est une folie indescriptible que de s'attacher aux biens temporels, aux possessions matérielles. Ce sont des choses qui vont passer. Si vous en avez, eh bien, transformez ces biens-là en des biens spirituels et vous serez bénis pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Donc, la fidélité à Jésus passe avant la fidélité à sa propre famille, à son propre parti politique. Je l'ai dit, parce que la société congolaise est très politisée. Tout est pensé en termes politiques. Et ça, je vous assure, ça me donne de l'urticaire. Au point où les gens, quand ils vous voient avec une personne qui appartient à telle famille, ah, ils roulent pour cette famille politique. On voit tout en noir ou blanc. Voilà. Si vous êtes avec les uns, oh, vous êtes dans le noir. Si vous êtes avec les autres, vous êtes dans la lumière. Non, mes amis, nous devons éviter ce manichéisme. Oh, alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, même si nous avons des convictions politiques, nous devons à un moment dire, ok, ce ne sont que des convictions politiques, l'autre est dans l'opposition, mais c'est mon frère. Nous pouvons manger le foufou ensemble. Nous pouvons prendre la chikwanga ensemble. Voyez-vous. Ah non? Le responsable de notre parti a dit, il faut même pas les saluer. Ah bon? Alors que la Bible te dit, si ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. D'ailleurs, on le dit, et moi je suis pas politique, hein, ni politicien, hein, qu'en politique, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des adversaires, c'est tout. D'ailleurs, vous voyez, il y en a qui jouent au ping-pong. Hein. C'est des véritables caméléons. Hein. Là où le vent part, les voilà. Et puis demain, vous apprenez, non, ils sont ici. Le lendemain, ils sont là-bas, des caméléons, sans aucune conviction. Ce sont des opportunistes. Voilà. Donc, la fidélité. Oh non, mon chef de parti a dit ceci. Très bien, c'est bien. Chaque parti a sa ligne de conduite. C'est ça la beauté de la démocratie. Hein, les débats contradictoires, chacun, eh bien, essaye d'approcher la réalité à sa manière, l'autre à sa manière, et puis les deux débattent, et puis après ils se disent, ok, c'est comme ça, même de l'autre côté. Vous avez les socialistes, vous avez les libéraux, ils n'ont pas toujours raison, hein. Mais ils arrivent quand même à manger les frites ensemble. Oui. La fidélité à son parti, à sa congrégation. Alors qu'on sait que les responsables de la congrégation sont en train d'amener la barque, sont en train de contribuer au naufrage de la barque. Vous restez et dites non, c'est comme ça d'ailleurs. Non! Alors que les responsables ne vivent plus avec Jésus, ils ne marchent plus selon Jésus. Toute leur vie est une abomination aux yeux de Dieu. Et vous continuez à les suivre. Non! Nous devons être fidèles d'abord et avant tout à Jésus. Oh, alléluia. Donc, ça veut dire, si à la borne, les gens, on ne prêche plus Jésus, on ne demande plus aux gens d'être fidèles à Jésus, bokende. Ça sert à quoi de venir ici et de vous compromettre? Ne venez pas simplement parce que c'est la borne, mais venez parce que à la borne, il y a quelqu'un. Venez le rencontrer, alléluia. Nous devons être fidèles envers celui-là. Voyez-vous. Et même la fidélité à Jésus, mes amis, doit passer avant la fidélité par rapport à nous-mêmes. Chacun de nous a des principes, oui ou non? Voilà. Il y a des gens qui ont une vie bien réglée. Ils ont leurs principes. Attention. C'est comme ça. Très bien. Oui, mais ils sont fidèles à leurs principes. Mais quelquefois, il arrive que le Seigneur nous demande d'aller à l'encontre de nos principes. Et là, le moi, ça c'est contre ma personne. Ah non. Seigneur, on parle en langue, mais vous savez, quand le Seigneur commence à secouer votre conscience, vous avez beau parler en langue, hein, ce n'est pas ça qui va l'empêcher d'agir. Voyez? Donc, vous êtes fidèle à vos principes, bien, jusqu'à un certain point. Au-delà, c'est la fidélité à Jésus qui devrait l'emporter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? La fidélité. Cela veut dire que la loyauté à l'égard de Jésus doit aller, doit être au-dessus de la loyauté vis-à-vis de tout, de la famille et même vis-à-vis de nous-mêmes. Je suis loyal envers moi-même, je suis cohérent, mais à un certain moment, le Seigneur va me demander d'aller à l'encontre de mes propres principes. Parce que, à un moment, ce principe de ma vie, cette façon de vivre qui jusque-là m'a aidé, eh bien, peut à un certain moment devenir un problème. À ce moment-là, le Seigneur te dit, ok, soit ce moi, soit ce toi. C'est là que le combat a lieu. Jésus qui veut prendre toute la place, et puis le moi qui résiste, qui veut rester ainsi sur son petit escabeau. Parlons du royaume de Dieu. Jésus a dit que ce sont les violents. Écoutez bien. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui ravissent le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Eh bien, il n'a pas demandé, il n'a pas dit qu'il faut violenter les autres. Il faut être violent envers les autres, basculer dans une sorte d'intégrisme et d'intolérance mortifère. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'être violent vis-à-vis des autres, mais il s'agit d'être violent envers soi-même. Alléluia. Il est question de se faire violence et non pas faire violence aux autres. La marche avec le Seigneur, mes amis, suivre Jésus, demande du courage et de l'audace, demande une foi ferme et de la persévérance face à l'opposition démoniaque, demande de l'audace face à la haine du monde contre nous. Le monde nous hait. Il cherche par tous les moyens à nous le faire voir et à nous le faire comprendre. Et quelquefois, nous essayons de nous attirer la sympathie du monde. Voyez-vous, en essayant de trouver un terrain d'entente. Non! Avec Jésus, ce n'est pas 78% et le reste pour moi ou pour le monde. Non! Jésus veut tout, absolument tout. 100% Jésus. Rien pour moi, rien pour le monde. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas besoin de travailleurs intérimaires ou avec des contrats qui fluctuent. Voilà, il travaille aujourd'hui, demain, il attend qu'on l'appelle. Non, le Seigneur a besoin de serviteurs qui le servent jour et nuit, qui soient à son service à 100%. Gloire au Seigneur. Face à la déliquescence de nos sociétés, nous devons savoir dire non et aller en contre-courant. Alors que tout le monde trouve normal de mettre la main dans les deniers publics, alors que tout le monde trouve normal d'être corrompu, car avec le petit salaire qu'on a, on ne peut pas bien vivre, vous vous dites non, je préfère me contenter du peu, manger une fois par jour ou tous les deux jours, mais rester en paix avec Jésus, plutôt que de me compromettre en étant corrompu ou en allant puiser dans la caisse de l'État ou la caisse de la société ou de l'entreprise. L'audace, nous en avons besoin, mes amis. Oui, le Seigneur veut que nous soyons audacieux comme des lions. Et enfin, le deuxième point, c'est l'audace par rapport à notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à être actifs, oui ou non? Et là aussi, non seulement sur le plan vertical, où nous devons faire preuve d'audace, nous faire violence, mais également sur le plan horizontal, par rapport à l'œuvre de Dieu. Voyez? Donc nous sommes appelés à contribuer d'une manière ou d'une autre, avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons, à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu veut que nous soyons actifs. Voyez-vous? Vous savez, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas d'un côté une sorte d'élite, une sorte de bourgeoisie, une sorte d'aristocratie. Et puis de l'autre, c'est la plèbe. Voilà, c'est le peuple. Celui là-haut, le laïc et tout ça. Non, nous sommes tous sauvés par grâce. Et tous nous sommes appelés à contribuer à l'avancement de son œuvre, ici à la borne et un peu partout. Voyez-vous? Et pour cela, il nous a donné, il nous a enrichi sur le plan spirituel. N'est-ce pas? Il nous a donné un ministère, il nous donne la possibilité d'intercéder pour notre église. Bientôt, nous allons lancer la construction. Comme je l'ai annoncé le vendredi, nous avons reçu le mercredi dernier officiellement, eh bien, le projet de construction. Enfin, les architectes nous ont remis ce projet-là au cours d'une petite cérémonie. Il y a une vidéo qui sera préparée et qu'on va vous balancer. Vous allez voir que désormais, tous les éléments préparés pour la construction d'un grand temple sur le site ici à Uppen, tout cela est prêt. C'est à peu près 162 ou 163 éléments. Donc tous les cahiers de charges sont prêts. Mais pour cela, mes amis, il faudra que vous et moi, nous puissions exceller dans la générosité envers l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a bénis, certes, sur le plan spirituel, mais également sur le plan matériel. Il y a d'un côté les richesses spirituelles, les différents ministères qu'il donne à l'Église, les dons spirituels, les différents charismes, les talents, tout ça ce sont des richesses que le Seigneur donne pour l'édification de son corps, alléluia. Regardez tous ces amis qui chantent, ils contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, car quand nous louons le Seigneur, quand nous l'adorons, eh bien nous permettons à l'œuvre de Dieu de prospérer en nous et au travers de nous, alléluia. Mais il nous a bénis également sur le plan matériel, ce que nous pourrions appeler les richesses terrestres. Et toutes ces richesses, aussi bien spirituelles que matérielles, doivent être mises à la disposition du Seigneur pour contribuer à son œuvre. Et pour cela, nous devons, mes amis, faire preuve d'une générosité pleine d'audace. Là où certains donnent la dixième, la dîme, nous nous disons, Seigneur, la dîme, c'est le minimum. Moi, je prends la décision de te donner plus que la dîme. Sur ma dîme, je vais commencer à ajouter, par exemple, $50. Je connais quelqu'un. Et puis après, sur ma dîme, je vais ajouter $5. Et je peux vous assurer, il a vu la main de Dieu. Eh bien, pour arriver à faire ça, il faut l'audace. Oui ou non? Tu t'es dit, bon, je dois contribuer à l'œuvre de Dieu, mais cette année, je dois me permettre quelques vacances quand même à Dubaï. Bon, je dois me permettre quelques vacances au Canada, et puis vous commencez à lutter. C'est pas mauvais de prendre des vacances, attention. Hein. Je ne dis pas qu'il faut pas en prendre. Mais à un moment, ben, ce sera à vous de choisir. Dites, bon Seigneur, les vacances, je les prendrai même l'année prochaine. Mais comme le besoin se fait sentir dans ton église par rapport à ton œuvre, eh bien, ce que j'aurais pu prendre pour aller me faire du bien, eh bien, je vais le prendre pour faire du bien à ton œuvre. Eh bien, pour arriver à ça, mes amis, il faut l'audace. Oui ou non? Il faut l'audace. L'audace. Donner au-delà de nos possibilités, comme les églises de Macédoine l'avaient fait lorsqu'il est arrivé que les frères de Jérusalem étaient dans le besoin. Les églises de Macédoine, c'est une région de Grèce à l'époque, donc se sont cotisées. Ils sont même allés au-delà dans leur œuvre de bienfaisance pour permettre à l'œuvre de Dieu de prospérer à Jérusalem. Voyez, vous pourriez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 8, les 7 premiers versets. Mais rappelez-vous maintenant de l'église de Corinthe. Si vous lisez le premier chapitre de 1 Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre Paul loue l'église de Corinthe. Leur rend témoignage de ce que cette église avait tout reçu sur le plan spirituel. Voyez-vous? Rien ne leur manquait. D'ailleurs, il dit, voyez, vous avez été enrichis en connaissances, enrichis de dons spirituels. Aucun don ne vous manque. Oui, cette église était connue. Connue pour les dons spirituels qui se manifestaient. Cette église était connue pour les différents charismes, pour les ministères qu'ils avaient reçus de la part du Seigneur. Ils avaient reçu toutes sortes de richesses spirituelles. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Cependant, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7, l'apôtre encourage le Corinthien. Il les exhorte à développer une autre qualité. Quelle est cette qualité? Eh bien, c'est la consécration de toute leur possession à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur dit? 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en tout, regardez bien, en foi, en parole, c'est-à-dire en éloquence, en connaissance, en connaissance, en empressement de tout genre, c'est-à-dire les Corinthiens faisaient preuve de beaucoup de zèle, du zèle qui allait dans tout le sens, et en votre amour pour nous, et puis il termine en disant, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce ou en cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Une version dit ceci, faites tout ou bien ayez aussi en abondance la générosité. Alléluia. Contribuez, soyez généreux. Et pour arriver, mes amis, allez au-delà. Nous devons faire preuve de générosité, d'audace plutôt, dans notre générosité. Vous voyez, mes amis, pour terminer, eh bien, nous avons besoin d'audace dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Que ce soit dans notre marche avec le Seigneur, dans notre responsabilité sur le plan vertical, notre consécration, notre culte envers lui, tout cela, il faut de l'audace. Mais aussi sur le plan horizontal, notre implication dans l'Église, notre contribution à l'avancement de son œuvre. Bientôt, nous allons démarrer les travaux, mais je ne vais pas attendre de démarrer les travaux. Je n'ai pas attendu qu'on démarre les travaux pour vous encourager. Je sais que beaucoup d'entre vous sont vraiment généreux envers le Seigneur. Regardez, nous sommes arrivés à construire tous ces hangars. Nous venons de couvrir, et bientôt nous allons terminer, toute la cour maternelle pour permettre aux gens de s'asseoir. Tout cela, eh bien, parce que vous avez été audacieux dans la générosité. Alléluia. Et je demande au Seigneur de vous bénir. Alléluia. Donc, l'audace, nous en avons besoin. Alors, dans cette nouvelle année 2021, soyons audacieux comme des lions dans notre consécration envers le Seigneur. Soyons audacieux comme des lions dans notre générosité envers l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et rendre grâce à Dieu pour ce message. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous rappeler, Seigneur, une fois de plus, combien nous devons être audacieux comme des lions, audacieux dans notre interaction avec toi, Seigneur, dans notre manière de te servir, audacieux dans notre consécration, Seigneur. Mais tu nous demandes également de faire preuve de la même audace lorsqu'il est question, Seigneur, de soutenir ton œuvre, lorsqu'il est question de créer des conditions qui permettent à ton œuvre de s'épanouir, qui permettent à ton œuvre, Seigneur, d'avancer, à ton règne de se manifester parmi nous et au travers de nous. Oui, donne-nous d'être de véritables audacieux, audacieux comme des lions. Merci pour tout.